Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir. Voici les titres. Plus d'un demi-milliard de dollars, soit plus de 280 milliards de francs CFA. C'est le montant total des fonds supplémentaires que les États-Unis vont accorder à l'Afrique pour lutter contre la famine. En Guinée, destitution du président de la Cour constitutionnelle en réaction du renouvellement de 3 conseillers. Au Rwanda, 6 religieux arrêtés suite à la fermeture de 700 églises. Au Togo, échec du dialogue entre l'opposition et le gouvernement. L'opposition appelle à manifester la semaine prochaine. Dans la Minute Éco, reprise du trafic ferroviaire entre la République démocratique du Congo et l'Angola après 34 ans d'interruption. Et c'est le jour J en Europe pour les 8e de finale retour de la Ligue des Champions côté sport. Mais tout d'abord, le journal. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a prononcé un discours à Washington sur la politique africaine juste avant d'entamer sa première tournée sur le continent. Il a déclaré que les États-Unis sont engagés à construire une relation forte avec l'Afrique et a accusé la Chine d'encourager la dépendance dans son approche. Il a également annoncé plus d'un demi-milliard de dollars supplémentaires pour lutter contre la famine en Afrique. Il se rendra en Éthiopie, à Djibouti, au Kenya, en Angola, au Tchad et au Nigeria. Au Burkina Faso, la procureure du tribunal de grande instance de Ouagadougou a fait le point en fin d'après-midi sur les enquêtes sur le double attentat de vendredi dernier. Les précisions avec Bagassi Koura.
Elle affirme que 8 personnes ont été interpellées et sont toujours en garde à vue. 8 assaillants ont été tués lors de l'attaque de l'ambassade de France et de l'état-major de l'armée. Ils étaient tous en civil, selon la procureure du Faso. Il y en avait qui étaient des teints noirs. Ils s'exprimaient en langue bambara et en arabe. À l'étape actuelle, on ne peut pas affirmer s'ils étaient des Burkinabés, a dit Madame Sérémé. Les assaillants sont venus en voiture et en moto, a-t-elle précisé. Selon le dernier bilan, 8 militaires burkinabés ont été tués. L'attaque a aussi fait 85 blessés, dont 61 militaires et 24 civils. Samedi, un incident lors d'un barrage de contrôle de police vers la présidence du Faso avait fait un mort. La procureure ne veut pas faire de lien pour l'instant entre les attaques de vendredi dernier et l'incident en question. Demain, les 8 militaires seront enterrés à Ouagadougou.
Par ailleurs, les autorités musulmanes et catholiques ont condamné ces attaques djihadistes qui ont frappé la capitale Ouagadougou vendredi. On retrouvera dans la partie magazine plus d'informations sur le groupe qui a revendiqué l'attentat. En Guinée, cacophonie à la Cour constitutionnelle. Des conseillers déclarent non conforme à la loi le remplacement de 3 membres de l'institution. La fronde fait suite au tirage au sort tenu hier par le président de la Cour, Kélé Fassal, pour le renouvellement des membres. Non content de cette procédure, 8 conseillers de l'institution ont voté pour la destitution du président de la Cour. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
La nouvelle a fait la une des journaux. Elle reste encore l'un des grands titres des sites d'information. Mais Kélé Fassal a-t-il été destitué? L'une des réponses se trouve dans le procès verbal d'une assemblée plénière tenue par 8 conseillers de la Cour constitutionnelle. Ce document a été publié dans la presse. Les signataires considèrent que les conditions et les modalités du tirage au sort n'ont été portées à la connaissance d'aucun des 8 conseillers. Des conseillers qui accusent le président de la Cour constitutionnelle de procéder au renouvellement dans son bureau et dans les conditions contraires à la Constitution, à la loi organique et au règlement intérieur. Pour toutes ces raisons, les 8 conseillers ont décidé de destituer Kélé Fassal de ses fonctions de président de la Cour constitutionnelle avec effet immédiat. Le procès verbal dit aussi que l'Assemblée plénière fixera ultérieurement la date à laquelle il sera procédé au renouvellement du tiers des membres de la Cour. Pour le moment, pas de réaction officielle du président de la Cour constitutionnelle. Le renouvellement s'est bien déroulé, avait déclaré à la presse le président de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme qui a participé au tirage au sort. Selon Mamadi Kaba, il est anticonstitutionnel de mettre le nom du président de la Cour au tirage au sort comme le réclamaient les 8 conseillers. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, la gendarmerie de Mbayakro, dans le centre du pays, a été incendiée au cours d'une émeute de lycéens. Lundi, le corps de Glaoud Edmond Chanceline, 14 ans, a été découvert, égorgé et vidé de son sang. Les élèves du lycée ont abandonné les cours pour paralyser la ville, réclamant justice pour leurs camarades. Le 17 février, un gendarme et un civil ont été tués dans une émeute similaire à Blolequin, ville de l'Ouest ivoirien. Au Togo, la coalition de l'opposition appelle à des manifestations de rue la semaine prochaine, alors qu'une disposition la contraignait à les suspendre pendant la durée du dialogue. Le point à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Des doutes germent dans l'esprit des Togolais sur la réussite du dialogue politique en cours dans le pays. Et pour cause, la coalition des 14 partis de l'opposition décide de battre le pavé à nouveau. Dans un communiqué, la coalition fait savoir qu'elle se sent dorénavant déliée de son engagement à geler ses manifestations. La coalition justifie cette décision par la poursuite du processus électoral par le gouvernement malgré la demande contraire émise par le dialogue. Ainsi, la coalition des 14 invite les Togolais à des marches dans plusieurs villes du pays les 13, 14, 15 et 17 mars prochains. Notons que ce mardi, la coalition s'est déplacée à Accra au Ghana pour rencontrer le facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Ouvert le 19 février dernier, le dialogue politique a été suspendu au second jour des discussions pendant que le point sur le retour à la constitution originelle de 1992 divise diamétralement le parti au pouvoir et l'opposition. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Nigeria, au moins 16 personnes ont été tuées hier au cours d'affrontements entre éleveurs nomades et agriculteurs dans le centre du pays. Ces affrontements dans le village d'Omoutou, dans l'état de Benue, interviennent dans un climat de tension croissante pour l'accès aux terres entre éleveurs peu musulmans et agriculteurs chrétiens de l'ethnie Tive. Par ailleurs, une attaque suicide menée par une personne à bicyclette portant une ceinture d'explosifs a fait 3 morts, 18 blessés hier soir, près de Maïdougouri, berceau du groupe Boko Haram. Les Sierra Leonais se rendent aux urnes demain, mercredi, pour les scrutins présidentiels, législatifs et communaux. Le président sortant, Ernest Bai Koroma, ne peut se représenter en termes de 2 mandats. Samora Camara, le candidat du parti au pouvoir, le congrès de tout le peuple, a achevé sa campagne électorale hier soir. L'ancien ministre des Affaires étrangères a pour principal rival l'ancien général Julius Maada Bio, candidat pour la principale formation d'opposition, le Parti du Peuple de Sierra Leone. Au Rwanda, les forces de l'ordre ont arrêté 6 responsables religieux pour s'être opposés à la fermeture de plus de 700 églises. Les autorités ont fermé ces lieux de culte parce qu'ils n'étaient pas conformes aux normes de sécurité et d'hygiène. Le point avec Blanche Sanou.
Les autorités rwandaises avaient annoncé que 714 églises et une mosquée devaient fermer à compter du 1er mars. Des responsables religieux ont critiqué cette décision, estimant que les autorités se montraient trop strictes. Après la suspension, certains leaders religieux ont commencé à tenir des rencontres illégales pour faire obstruction à la directive, a déclaré le porte-parole de la police rwandaise, Théos Badege. La police a donc mené des enquêtes pour trouver les cerveaux derrière ce acte illégal. 6 responsables d'églises pentecôtistes, dont l'évêque Innocent Rugagi, ont été arrêtés. Par ailleurs, le Rwanda prépare une nouvelle loi qui devrait rendre plus difficile l'ouverture de nouvelles églises. Si cette loi est adoptée, les prédicateurs devront obligatoirement suivre des cours de théologie. Certains hommes d'église accusent le gouvernement de Kigali de tenter de contrôler le message qu'ils font passer à leurs fidèles dans un pays souvent accusé par les défenseurs des droits de l'homme de bafouer la liberté d'expression.
En République démocratique du Congo, la réunion initialement convoquée mardi entre le président Joseph Kabila et les 7 principaux opérateurs miniers de son pays autour d'une réforme du code minier contestée est reportée à mercredi. Par ailleurs, la Cour pénale internationale doit rendre jeudi son jugement en appel sur les réparations $1 million contestées par l'ex-chef de milice congolais Germain Katanga.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et un sommet intercoréen se tiendra fin avril, la frontière entre les deux pays pour la première fois depuis 2007. Une avancée déjà saluée par Washington. Abdourahmane Dia.
Un émissaire sud-coréen, de retour de Pyongyang, a annoncé que la Corée du Nord lui a affirmé qu'elle renoncerait à l'arme atomique le jour où la sécurité de son régime serait garantie. Chung Hee-yong, conseiller pour la sécurité du président sud-coréen, et quatre autres responsables ont rencontré hier le dirigeant Kim Jong-un. Il s'agit des plus hauts responsables sud-coréens à se rendre à Pyongyang depuis 10 ans, dans la foulée du rapprochement entamé à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver. Le sommet intercoréen aura lieu fin avril dans la zone démilitarisée qui sépare le nord du sud. En réaction, le président des États-Unis, Donald Trump, a salué ce mardi des progrès possibles sur le dossier nord-coréen. Pour la première fois depuis des années, un effort sérieux est fait par toutes les parties concernées, a tweeté Donald Trump. Le monde regarde et attend, peut-être de faux espoirs, mais les États-Unis sont prêts à s'engager, a-t-il ajouté.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle avec Eric Manirakiza.
Le trafic ferroviaire entre la RDC et l'Angola a repris lundi après 34 ans de suspension. Cette voie va faciliter l'évacuation des matières premières congolaises vers le port angolais de Lobito. Le premier train est parti lundi transportant 50 containers. Ce tronçon long de 1300 km était fermé à cause de l'insécurité. Le président Joseph Kabila a convoqué les 7 principaux opérateurs miniers de son pays pour écouter leurs craintes sur la révision du code minier de la RDC. Le projet de réforme envisage de multiplier par 5 une taxe sur les métaux stratégiques, notamment le cobalt. Il instaure aussi une redevance avec le taux de 10%. L'économie sud-africaine a enregistré une croissance de près de 1,5% l'an dernier, soit le double de 2016. Les principaux moteurs de l'économie sont notamment le secteur agricole, les finances et les mines. Depuis la prise de pouvoir de Cyril Ramaphosa, la devise nationale s'est ressaisie pour atteindre son plus haut niveau face au dollar en 3 ans. Aux États-Unis, le chef du Conseil économique national, Gary Cohen, s'est opposé à la décision du président Donald Trump d'imposer 25% de taxes sur les importations d'acier et de 10% sur l'aluminium. M. Cohen, qui défend seul le libre-échange, a même menacé de démissionner, estimant que ces mesures étaient dangereuses pour l'économie. En revanche, les conseillers de Donald Trump en matière de commerce ont tous soutenu sa position.
C'est l'heure de la page sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Jour J en Europe pour les 8e de finale retour de la Ligue des Champions.
Et oui, le coup d'envoi à 19h45 temps universel pour le Paris Saint-Germain orphelin de Neymar qui doit surmonter sa défaite de 3 buts à 1 à l'aller et sortir le Real Madrid tenant du titre de Cristiano Ronaldo pour devenir crédible et s'éviter une grosse crise. On rappelle que depuis 2011, le PSG sous pavillon qatari n'a jamais atteint les demi-finales de la compétition réelle. L'autre match de la soirée, Liverpool a la qualification presque au bout du pied en accueillant Porto qu'il avait battu 5 buts à 0 à l'aller grâce notamment au triplé du Sénégalais Sadio Mané.
Demain, 2 autres clubs anglais en piste.
Finaliste de la saison dernière, la Juventus Turin a concédé le nul contre Tottenham à l'aller, 2 buts partout, et se retrouve en mauvaise posture, tandis que Manchester City entrevoit déjà les quarts de finale après sa victoire 4-0 à l'aller contre le FC Bâle.
Et sur le continent africain, les 16e de finale aller de la Ligue des Champions.
Et le beau succès cet après-midi en Tanzanie à l'extérieur des Township Rollers, le club botswanais qui a battu 2-1 les Young Africans. À suivre ce mardi, le MFM FC du Nigeria contre le MC Alger, l'Étoile du Sahel, le club tunisien qui accueille le plateau du Nigeria, le Roya de Guinée face à Génération Foot du Sénégal et puis Al Ahly d'Égypte face au club gabonais du CF Mounana.
Et en Coupe CAF aussi, les premiers matchs.
Le club congolais de la Mancha contre Al Ahly Chandi du Soudan. Match nul, 1 but partout entre Motema Pembe et le Deportivo Niefang. C'est un club de Guinée équatoriale. Le Petro Atlético d'Angola face au Supersport d'Afrique du Sud, Belouizdad d'Algérie contre Nkana de Zambie, Berkane du Maroc contre le club africain de Tunisie et puis le Raja Casablanca qui accueille le FC Nouadhibou, le club mauritanien.
Et un point sur la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Bien aidé par les 33 points de LeBron James, Cleveland a battu des 322-90. Le Heat de Miami s'est imposé 125-103 contre Phoenix. Et puis les Bucks de Milwaukee sont tombés 89-92 contre les Pacers à Indianapolis. De son côté, Boston n'a pas trop souffert en l'absence de son meneur star, Kyrie Irving, blessé à un genou. Les Celtics ont pris le meilleur sur Chicago.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le double attentat à Ouagadougou au quartier général de l'état-major des armées burkinabé et l'ambassade de France au Burkina a été revendiqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est une coalition de quatre entités djihadistes du Sahel liées à Al-Qaïda. Mais alors pourquoi cette coalition ? Yacouba Ouedraogo a joint Ahmed Diop, rédacteur en chef du service francophone de l'agence Al-Akhbar.
C'est une coalition de djihadistes, née donc de la fusion des principaux groupes djihadistes au nord du Mali, dont Ansar Dine. L'ex-chef d'Ansar Dine, Iyad Agrali, est lui-même le chef du groupe. Le groupe est né en mars 2017. On dénote seulement entre mai et octobre 2017 31 attaques que le groupe a revendiquées. Et ce sont des attaques qui ont coûté la vie à 65 personnes. Sa première attaque, c'était en août 2017. C'était contre les casques bleus. Ça veut dire qu'eux ciblent la présence armés dans la sous-région. Ils ne cibleraient pas peut-être les populations pour leur dire que nous sommes là pour un peu balayer la zone de ce qu'on appelle, avec leur jargon, les mécréants et les croisés.
C'est à travers votre agence Al-Akhbar que ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué l'attaque de l'état-major général des armées à Ouagadougou et l'ambassade de France aussi. Pourquoi vous?
Ce n'est pas la première fois que l'Akhbar donc publie des revendications des groupes actifs dans le nord du Mali. Mais pourquoi nous? Cette question, je pense qu'il faudrait plutôt la poser à ces groupes, à Nusra al-Islam ou al-Muslimin, pourquoi ils ont choisi cela. En tout cas, nous, on a eu la primauté de l'information. Quand une information nous arrive, on va juste publier ce qu'en est une information. Tout ce qui est propagande et autres, nous ne les diffusons pas. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu récemment une vidéo de l'otage française Sophie Petrona, on a simplement mis le texte parce que sur le plan humain, on ne pouvait pas diffuser cette vidéo et on a décidé en rédaction de ne pas le faire.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est dirigé par Iyad Agali. Pourquoi Iyad?
Peut-être parce que Iyad, il a une base populaire, il est de l'extrême nord du Mali, à Kidal, et il a des tribus qui lui sont favorables, donc ça peut être une source de recrutement donc de combattants djihadistes, mais également Iyad, c'est quelqu'un qui connaît la région parce qu'il a déjà dirigé un mouvement, l'ex-Ansar Dine, qui fait partie donc de la fusion de Nusrat al-Islam al-Muslimin. Et il y a donc, connaît très bien le terrain.
L'attaque de l'état-major général des armées de Ouagadougou et de l'ambassade de France dénote d'une certaine organisation de ce groupe-là. Il faut craindre cette coalition.
Mais bien sûr, quand ils ont commencé, ils ont dressé une liste de 11 pays dont fait partie les États-Unis et la France et certains pays africains, dont le Burkina. Il y a d'autres pays qui n'ont pas encore été frappés, comme le Sénégal et la Guinée. Le Burkina Faso, c'est un terrain d'affrontement entre deux rivaux, la branche de l'État islamique au Sahel, mais également Al-Qaïda Maghreb islamique qui est devenu aujourd'hui un petit peu dans cette vision de Nusrat al-Islam al-Muslim. Donc il y a cette rivalité pour occuper le terrain.
Ahmed Diop, joint à Nouakchott.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Et comme leurs confrères, les femmes journalistes sont parfois victimes d'intimidations, d'arrestations et de violences. C'est ce qui est arrivé à Raissa Sylvana Oyaseko, rédactrice en chef des Échos du Nord au Gabon. Nathalie Barge a tendu le micro à notre consoeur qui témoigne de la torture qu'elle affirme avoir subie en 2016.
Le 5 novembre 2016, j'ai été emprisonnée. Les agents de l'immigration sont venus chez moi. Ils m'ont mis l'arme sur la tempe, ils m'ont pris et arrivé dans leurs locaux, ils m'ont torturé. J'ai saigné jusqu'à perdre un bébé vu que j'étais enceinte. Ils ont voulu que je leur dévoile une source, ce que je n'ai pas fait. Et un monsieur qui m'a reçu, il me dit, moi je m'appelle Torture. Ils m'ont attaché les mains, les pieds et ils m'ont mis sur, on appelle ça chez nous le pont. Et sur le pont, ils m'ont donné des coups de matraque, des coups de pied. Ils m'ont marché dessus. Même enseignants, ils ne m'ont pas lâché. Ils ont continué à me torturer. Mais dès qu'ils ont compris que je n'allais pas révéler ma source, ils ont abandonné. Et l'avocat qui faisait aussi la pression dehors, l'avocat et la société civile qui faisaient aussi la pression dehors. Je crois que c'est suite à ces pressions qu'ils ont arrêté.
Vous avez porté plainte?
Nous avons porté plainte au pays, mais la plainte n'a pas été jugée recevable. Le directeur qui est en exil, Désiré Nam, a porté plainte en France.
Est-ce que vous travaillez dans la peur?
La peur est humaine. Je travaille pas vraiment dans la peur. Au contraire, ça m'a donné du courage. Ça m'a renforcé. C'est vrai, je sais que je suis filée. Je sais que je suis écoutée. Parfois, on m'envoie des messages d'intimidation. Mais je vais faire au mieux mon travail. Une autre fois, je rentrais du journal un soir. Et en prenant un taxi, 4 hommes m'ont tabassé dans le taxi. Et ils m'ont dit, ça ne fait que commencer.
Est-ce que vous bénéficiez d'une protection?
Non. C'est pour cela que les femmes ont peur de travailler, vu que je suis la seule femme qui dirige le journal au Gabon. Et c'est un journal qui n'est pas très tendre vis-à-vis du pouvoir. C'est pour cela que ce journal n'est pas très apprécié.
Qu'est-ce que vous espérez pour votre pays et surtout pour les femmes de votre pays?
Un relâchement. Nous aspirons à la liberté, au développement. Et pour les femmes de mon pays, j'espère qu'elles prendront à cœur leur rôle. En Afrique de l'Ouest, ça va. La femme connaît sa place. En Afrique centrale, quand il y a des grandes manifestations, elle est encore vue comme cette femme qui doit se cacher alors qu'elle a un pouvoir dont elle n'est pas consciente.
Raissa Sylvana Yaseko, rédactrice en chef des Échos du Nord au Gabon.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et ici, aux États-Unis, la situation reste floue pour près de 700 000 jeunes adultes bénéficiant d'un programme créé par Barack Obama et connu sous le nom de DACA, qui leur permet de vivre et d'étudier aux États-Unis. Mais ce programme a été abrogé par Donald Trump, qui avait donné au Congrès jusqu'au 5 mars pour régler définitivement la question. Pour en parler, John Lyndon a joint Sophie Raven, avocate d'immigration basée à New York.
Il n'y a pas une réponse claire en ce moment parce qu'il faut attendre de voir comment la Cour d'appel va décider de ça. Donc, il y a une cour en Californie qui a fait une injonction pour empêcher justement que le programme cesse le 5 mars. Et donc, les personnes qui étaient éligibles pour justement envoyer leur demande pour le renouvellement de DACA peuvent continuer à le faire jusqu'à ce que le processus suive son cours dans les tribunaux.
On constate que les parlementaires sont très divisés sur le dossier DACA. Est-ce qu'il y a une porte de sortie qui pourrait satisfaire tout le monde?
C'est très difficile à dire parce que tout est devenu très, très politisé. Il y a un désir de justement trouver une solution pour DACA, pour toutes les personnes qui ont le statut de DACA. Mais le problème, c'est que le président veut absolument lier toute solution à de l'argent réservé pour construire le mur entre les États-Unis et le Mexique. Et les démocrates sont complètement opposés à cette idée. Donc, c'est à Donald Trump. S'il retire ce critère, justement, peut-être une solution pour DACA peut arriver. Mais je crois que pour l'instant, l'administration attend la décision des tribunaux. Parce qu'ils ont essayé d'éviter la cour d'appel et faire appel directement à la Cour suprême pour que la Cour suprême prenne une décision, ce qui est vraiment très irrégulier. Et la Cour suprême a refusé d'écouter justement le cas.
Vous êtes avocate, vous êtes basée à New York. Quels sont les cas que vous recevez de vos clients, notamment ceux concernés par ce DACA?
Je reçois de temps en temps des sollicitations et des questions de personnes qui ont DACA pour voir si leur DACA reste toujours valable. Mais je dois malheureusement informer ceux qui cherchent à faire une nouvelle demande de DACA qui ne sont plus éligibles parce que le programme reste en suspens pour toute nouvelle demande.
Sophie Raven, avocate d'immigration basée à New York.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Sims Mouami à la mise en onde, Bill Barber à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Si Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
L'ambassadeur des États-Unis au Nigeria, Stuart Symington, s'est joint à 40 hommes politiques nigérians et au président de l'Institut international républicain, Daniel Turning, pour lancer une initiative soutenue par l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. Celle-ci vise à aider les partis politiques à adopter des meilleures pratiques de gouvernance et d'améliorer la qualité du discours politique. Mise en œuvre par l'Institut international républicain et l'ONG Search for Common Ground, ce projet d'une durée de 3 ans et doté d'une enveloppe de 5,5 millions de dollars aidera les principaux partis politiques du Nigeria à améliorer leurs réponses aux préoccupations des citoyens. L'objectif est aussi de contribuer à assurer une participation pacifique aux prochaines élections. L'initiative vise à aider les partis prenant part aux prochaines élections à devenir plus représentatifs et aussi à améliorer la supervision des programmes gouvernementaux. Elle doit aussi accroître la fréquence et l'intensité des interactions entre les partis politiques et les citoyens, améliorer la communication entre les responsables des partis, les candidats et les élus à tous les niveaux. L'autre but est de renforcer la participation des groupes marginalisés dans le processus politique et au sein des partis. L'initiative aidera également à répandre le message de la paix et de la non-violence à travers le processus électoral, à détecter les signes avant-coureurs de la violence électorale, à formuler les stratégies pour atténuer les risques potentiels à travers l'évaluation des conflits, de concert avec les partis politiques et les organisations de la société civile. En travaillant avec l'Institut international républicain sur ce projet, nos partis seront plus forts et plus efficaces et répondront mieux aux attentes des Nigérians, a déclaré le président adjoint du Sénat, Ike Ekeremadu. Je puis vous assurer de la coopération de l'Assemblée nationale dans la mise en œuvre de cette noble initiative, a-t-il ajouté. Si vous cherchez à être des leaders, ne parlez non seulement de ce qui ne va pas, mais aussi de ce que vous comptez faire de juste dans le futur, a dit pour sa part l'ambassadeur Symington aux hommes politiques rassemblés. Et ce que vous pouvez faire de plus juste, c'est d'inspirer vos membres à s'unir pour l'avènement d'un Nigeria meilleur, a conclu l'ambassadeur.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.